Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes avec deux personnes, c'est-à-dire Fabienne Soudé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administratrice bénévole au sein de l'association Écologie au quotidien.
Exactement.
Et aussi Jean-Louis Vira.
Bonjour.
Administrateur aussi, donc, à cette association. Tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer donc la programmation globale hein, de s'entraider et coopérer ici et ailleurs. Donc la nouvelle organisation de cette année de l'écologie au quotidien et qui s'appelle dorénavant, depuis l'année dernière d'ailleurs, Rencontre de Die et de la Biovallée. On va d'abord commencer par vous demander qu'est-ce qui vous a amené justement à l'écologie au quotidien, Fabienne.
Alors... D'abord, écologie au quotidien, c'était quand même un nom qui me parlait bien. Et j'ai découvert les rencontres il y a 2 ans. Je suis venue à quelques conférences qui m'ont beaucoup intéressée, des balles folk, et des ateliers. Et l'ambiance était tellement enthousiasmante que j'ai eu envie de revenir l'année suivante, mais en tant que bénévole. Et là, l'expérience d'être bénévole, ça ressemble tellement à ce que j'avais envie de vivre au quotidien, de ce que vraiment ce qui me porte, l'essence que j'ai envie d'être dans la vie, quoi. Donc c'est vraiment à la fois la coopération, travailler ensemble, dans la joie, la bonne humeur, c'est être dans l'initiative. C'est s'entraider, c'est facile et c'est juste comme ça que j'aurais envie que la société, enfin vive dans la société, quoi, qu'on se manifeste chacun dans cette expérience de nous-mêmes, dans le partage. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin, de m'engager, parce que c'est ça ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie de vivre, de manifester ce que j'ai envie de qu'il se développe, quoi, cette façon d'être dans l'écologie.
Alors, il me semble qu'on peut quand même ajouter un petit point que tu oublies, Fabienne, mais qui est important, c'est cette notion de bienveillance. Je crois
oui.
qu'elle est vraiment importante.
Tout à fait.
Parce que bienveillance, évidemment, ça peut être un terme très galvaudé. Mais en même temps, ce qui est clair, c'est qu'il y a un respect de la différence qui mérite d'être pratiqué en nombreuses circonstances.
Tout à fait.
Et dans le cadre du sujet donc de l'écologie, au sens large du terme, Dieu sait s'il est important que nous soyons dans une attitude de bienveillance, d'écoute, d'intérêt pour des points de vue adverses, parce qu'on le voit bien, c'est quand même un sujet qui est loin de faire l'unanimité et pourtant qui pose de graves problèmes.
Je reviens vers vous, Fabienne. Vous aviez, avant d'accéder à l'écologie au quotidien, fait le pas de venir vivre dans le Diwa, par exemple.
Alors, écoutez, non. Très franchement, ce que j'ai vécu dans le Diwa, ce que j'ai vécu aux rencontres de Die, ça a complètement orienté mon envie de venir m'installer ici. Donc ça y est, on s'installe. Mais grâce aussi à ce que j'ai vécu pendant les rencontres et tout ce que j'ai vécu aussi dans Die, parce qu'il y a quand même une qualité relationnelle extraordinaire, donc une qualité de vie aussi. Donc en effet, ça a très largement contribué au fait que j'ai envie de continuer à m'impliquer ici.
Jean-Louis Vira, je vous repose la question. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à écologie au quotidien ?
Alors, ce qui m'a amené à écologie au quotidien, eh bien, c'est écologie au quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les premières années, j'étais très occupé professionnellement, chef d'entreprise locale. Et malgré tout, je trouvais un petit peu de temps pour participer à certaines réunions, à certaines conférences. pas beaucoup, mais un peu. Et puis, au fur et à mesure que j'ai pris ma retraite progressivement, j'ai disposé de temps pour en faire plus. Et plus j'étais dans le processus de participation, notamment d'abord en tant que visiteur, en tant que participant aux conférences, plus j'ai éprouvé le besoin d'apporter mon concours à la préparation de ces rencontres. Et je dois dire que ce mélange a été pour moi à renforcer, mais considérablement, ce qu'on pourrait appeler mon éducation sur le sujet, ma sensibilisation, mon ouverture au sujet. Et donc, il y a eu une espèce de cercle vertueux très dynamique qui s'est mis en place.
Nous allons aborder donc l'organisation de cette année. Qu'est-ce que représente à vos yeux donc Écologie au quotidien, Jean-Louis Vira ?
Alors là, je crois qu'on est obligé de faire un peu un tableau de la situation à laquelle on est. D'ailleurs, l'actualité est là pour nous le rappeler, ne serait-ce qu'avec le forum de Davos ou avec la confrontation d'ailleurs de Greta Thunberg et de Donald Trump. On sent bien qu'il y a un problème de fond. Alors, ce que je m'engage à dire, ce que je m'autorise à dire, c'est que je trouve que le sujet, il est quand même très souvent escamoté, parce qu'on parle de changement climatique, de dégradation climatique, ça c'est une réalité. Ce qu'on oublie trop, c'est qu'avec autant d'importance, on a deux autres problèmes. On a un problème de biodiversité qui décline à toute vitesse, et on a un système économique mondial de plus en plus fragile, plus il est sophistiqué, plus il est fragile. On a trois problèmes. Sauf que ces trois problèmes, ils forment une trilogie qui, quand ils sont combinés ensemble, ne font qu'aggraver la situation. Donc on a une toile de fond qui n'est pas très drôle si on laisse filer les choses comme ça. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous plaçons différentes thématiques qu'on va pouvoir aborder, notamment, puisque c'est dans le titre, la notion d'entraide, elle est fondamentale. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de l'individualisme et de la compétition qui prévaut. Et moi qui étais chef d'entreprise, je dois dire que j'ai dû faire ma révolution culturelle là-dessus, ce qui n'était pas si simple. Donc voilà, c'est cette notion d'entraide, c'est l'illustration parfaite d'une des pistes sur laquelle on doit travailler avec cette trilogie en toile de fond.
Vous semblez vous intéresser donc à cette situation. Vous vous documentez avec quel type d'informations ?
Eh bien, tout simplement, deux types d'informations qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut être présent, être dans l'échange avec des tas de groupes, d'organisations, de colloques, etc., qui sont qui permettent de nourrir sa réflexion. La deuxième chose, eh bien, c'est que il faut lire des revues, faut lire des ouvrages là-dessus. Sachant, comme toujours, que dans les ouvrages, vous en avez un qui dit blanc et l'autre qui dit noir. Et donc, il y a un moment où vous êtes obligé de faire un choix. Ou vous choisissez le camp du blanc, ou vous choisissez le camp du noir. Moi, ma conviction intime, c'est qu'il faut choisir le camp de ce qu'on va appeler, globalement, l'écologie. Je ne vois pas, personnellement, n'en déplaise à certains auteurs, je ne vois pas d'autres toiles de fond raisonnables.
Justement, l'écologie au sens large de ce terme, qu'est-ce qu'on peut y trouver qui pourrait être compliqué d'ailleurs à mettre en place ?
Bon, je vais répondre également. Je pense que on a une sorte de déni de fait des esprits, dont malgré tout, malgré ce que je viens de dire, le mien, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on se dit oui, mais bon, ok, on se dit tout ça, mais ça paraît impossible. Et donc, quelque part, on se dit, on verra plus tard, on compte sur le gouvernement, etc., et pour continuer sur la lancée. Donc, on est sur cet état d'esprit. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'une des préoccupations des rencontres d'Audi, c'est non seulement de nourrir nos réflexions entre guillemets convaincus, qu'on le soit totalement ou pas totalement, mais également de nouer des contacts, des échanges avec des personnes qui se sentent distantes, pour ne pas dire hostiles à cette démarche, alors même que ça les concerne directement, ça va concerner leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc je crois qu'on est vraiment dans cette ambiance-là aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Aurélien Barraud,
oui.
Qui est professeur astronome. Et pour lui, justement, les bouleversements de société qui sont propices à un retour, en quelque sorte, à l'écologie, ne se ferait pas sans fermeté, pour dire le moins. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est un sacré sujet, parce que c'est vrai que, ma nature optimiste, idéaliste et pacifique fait que je souhaite ardemment que la sagesse et la raison de chacun puissent l'emporter. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas le cas. Et effectivement, comme vous le dites dans votre question, je pense que ce qui va nous mettre la pression en quelque sorte, c'est malheureusement la dégradation des situations. Et c'est d'autre part, peut-être, et là je l'espère, une volonté politique d'impulser, d'exiger, d'imposer des règles de fonctionnement collective qui aillent dans le sens que nous souhaitons.
Et donc, on aborde ce titre, s'entraider, coopérer, ici et ailleurs. On rejoint un petit peu ces idées avec ce titre. Donc, s'entraider, on en est où pour vous, aujourd'hui, dans notre société française, par exemple, sur l'entraide?
Alors, moi, je voudrais juste donner des exemples. J'anime, par exemple, deux ateliers pendant les rencontres, sur faire les choses soi-même. Un atelier où on va partager tout ce qu'on peut faire. Et donc, on va être plusieurs animés, mais c'est aussi l'idée du partage. Comment est-ce que tu fais, toi, ta recette de lessive ou ta recette de crème pour les bobos? Pour moi, c'est ça, s'entraider. C'est un exemple. Mais... tout ce que j'ai pu vivre au cours du bénévolat que j'ai fait pendant les rencontres, c'est ça aussi, cette illustration de s'entraider. On y va, quoi. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement nous dise ou ponde une loi. Non, on y va. Et voilà, pour moi, c'est l'engagement de chacun. Alors, c'est un petit pas, mais si chacun s'y met, je pense qu'on peut vraiment réussir à changer les choses.
On peut peut-être donner des exemples concrets qui se pratiquent sur le DIY dans cette idée justement de devancer dans des démarches, une politique gouvernementale par exemple.
Alors oui, politique gouvernementale, c'est peut-être beaucoup dire. C'est vrai que c'est un point important qu'on évoque là. C'est-à-dire qu'au fond, on est confronté, chaque individu, à deux grands chapitres. Un chapitre qui relève plutôt de décisions, on va dire, institutionnelles ou gouvernementales, et un chapitre qui concerne son comportement individuel. Le risque, que j'entends souvent, et pas plus tard qu'hier soir dans une réunion très intéressante, c'était le cas, c'est de dire « oui, mais le gouvernement, les lobbies, etc. » Et grâce à ça, on se donne bonne conscience pour ne pas se bouger. Moi, j'ai tendance à dire... puisqu'on n'a pas de pouvoir direct là-dessus, oublions ça, pas en tant que citoyen, mais oublions ça dans notre action quotidienne, et regardons ce qu'on peut faire à titre individuel. Ça, je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Je m'autorise à le dire avec un peu de force, parce que je pense que c'est pas dans la culture qui prévaut. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à incriminer les autres, le gouvernement, etc. Et ce qui nous exonère d'avoir à se regarder soi-même. Donc là, je pense qu'on a un véritable défi. Et donc, si on prend maintenant dans notre vie locale, le foisonnement d'associations, qui est une richesse, à mon avis, tout à fait inhabituelle par rapport à ce qu'il peut y avoir partout en France, eh bien, on s'aperçoit que vous avez un certain nombre d'associations qui ont vu le jour, pas à cause d'écologie au quotidien, mais parfois avec la complicité quand même, sur la recyclerie, l'entraide sur les vélos, etc. Il y a un certain nombre de... j'ai pas tout ça en tête, mais il y a un certain nombre d'activités qui ont pu trouver un sens supplémentaire grâce à des initiatives comme celle d'écologie au quotidien et de ces rencontres.
Coopérer ici et ailleurs. Donc, on revient sur ce mot. Ah, vous ouais. parliez de coproduction, coopération, est beaucoup plus large encore. Oui.
Alors là, voilà, c'est un sujet, là aussi, je crois, qui est vraiment important et sous-estimé. Notamment, c'est les relations Nord-Sud. C'est-à-dire que, en fait, quel est le raisonnement que nous avons, je veux dire, moi, que j'entends depuis 50, 60 ans, c'est il faut aider les pays du Sud. Alors, je suis évidemment d'accord avec ça, mais je trouve que cette approche, elle est très réductrice. Et en particulier, quand on est dans les rencontres, nous avons des liens d'échange où, en quelque sorte, ce sont les pays du Sud qui nous apportent. Hein. C'est-à-dire, quel est leur mode de vie, en quoi il peut être inspirant, surtout dans un contexte où, probablement, on va devoir apprendre à vivre avec des choses plus simples, plus locales, plus autosubsistantes, en quelque sorte. Et c'est en ce sens qu'il y a cette coopération ici et ailleurs. On ne peut pas imaginer d'organiser notre vie ici dans une situation que je vais qualifier de dégradée, tout en ignorant ce qui se passe dans des pays qui, eux, ont déjà l'expérience de tout ça. Et c'est intéressant.
Je reviens sur le mot « coopérer ». Donc, dans ce mot, on y trouve « opérer », qui est d'origine latine et qui voulait dire aussi « agir ». Donc, on peut parler de coaction, de coagir. Ça se passe déjà avec le Nord-Sud, comme vous le disiez. Oui. Mais d'Est à Ouest, il n'y a rien aussi ?
D'Est à Ouest, effectivement, la question est bonne. Il n'y a probablement pas rien. Il n'y a pas rien, mais il y a moins. Toutefois, on peut citer les liens de coopération qui existent depuis plusieurs années, notamment avec nos amis belges de l'Université catholique de Louvain. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que ces dernières années, ils se sont nourris, donc ces universitaires, de nos expériences qui, somme toute, sont assez singulières hein, dans le cadre de la Biovallée. Et en même temps, la qualité de ces chercheurs et de ces universitaires, lorsqu'ils interviennent chez nous, et on a certains cas, comme Kramer, comme Yvan Beck, comme Olivier de Scutter, qui interviennent donc pendant ces rencontres-ci, ce sont des gens qui sont très contents de venir nous restituer, nous faire part de leurs réflexions. Donc il y a vraiment un échange dans les deux. Alors on n'est pas dans de l'Est-Ouest, mais on est entre nantis, en quelque sorte. Hein.
Donc ça, c'est pour l'ailleurs. Et pour ici, alors, coopérer, qu'est-ce qui se passe dans le Diwa ?
Je peux affirmer, pour l'avoir vécu moi-même, que grâce à Écologie au quotidien, à plusieurs reprises, sont nées des initiatives qui, aujourd'hui, sont tout à fait visibles dans l'environnement local. Alors, je vais les citer. D'une part, on a pu créer une association qui s'appelle le RADAR, qui vient en aide à des réfugiés. Et donc, grâce au RADAR et à son action, nous avons pu accueillir deux grandes familles qui étaient prisonnières, si je peux dire, de camps depuis des années, et qui ont retrouvé une vie beaucoup plus normale. Je pourrais citer également le cas du laboratoire de la transition, qui a vu le jour ici, à l'initiative d'Olivier de Scutter et de moi-même, et qui mène différentes actions, dont en particulier l'existence d'un groupe d'échange de réflexion et d'expérimentation sur justement toute ce mode de quel genre de vie, quel mode de vie nous pourrions avoir en situation dégradée, voire plus. Et donc c'est assez inspirant parce que ça permet d'envisager des anticipations, ça nous aide à faire évoluer nos modes de vie, y compris dans le contexte actuel. Donc voilà deux exemples parmi d'autres. D'associations ou de mouvements qui ont vu naissance directement grâce à Écologie au quotidien. Au-delà, puisqu'on cite la Biovallée hein, régulièrement, l'apport des membres d'Écologie au quotidien au mouvement Biovallée, qui est appelé à s'amplifier, est incontestable. Il y a vraiment un enrichissement. Et donc, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est justement tout cette multitude d'échanges qui s'entrelacent en toutes circonstances, qui font que on fait prendre la mayonnaise, en quelque sorte. Hein.
On aborde un peu le programme donc, de cette 18e rencontre. Comment s'opère le choix des personnes invitées ? Vous opérez de manière collégiale ou... donc, et ça prend combien de temps, justement, chaque année, à préparer ces rencontres ?
Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience encore, mais depuis... Je pense que ça prend à peu près un an pour construire le programme. Donc, il y a en effet, au sein du conseil d'administration... des gens qui proposent des idées, mais ça peut être d'autres personnes qui nous en suggèrent aussi. Et puis on va choisir le thème de l'année au cours du conseil d'administration. Et puis après, on va inviter, échanger avec des possibles intervenants. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve assez extraordinaire pendant ces rencontres, c'est que c'est très, très varié. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des conférences avec des gens qui sont, voilà, qui ont vraiment beaucoup de connaissances sur le sujet, des experts, on a des ateliers, on a des locaux, des choses où on fait soi-même, on a de la danse, on a... Donc, c'est extrêmement varié. On a des spectacles, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de joie. Donc, c'est très... voilà, c'est très dense. Et en même temps, léger. Voilà.
Donc, l'entraide nécessite des outils aussi. Et, on peut en découvrir certains lors de ces conférences ou de ces propositions d'ateliers.
Je dirais que l'entraide, elle est transverse. Hein. C'est-à-dire qu'on va le retrouver dans l'ensemble des composantes de ce programme. Programme, d'ailleurs, il faut le dire, qui est à la carte. C'est-à-dire que chacun vient et il peut venir pour une chose ou pour plein de choses. Il fait vraiment son programme de façon personnalisée. Mais la valeur entraide, qui est évidemment une valeur fondamentale, elle traverse tout ça. Et elle n'est pas structurée en tant que telle. C'est, bien sûr qu'elle l'est dans l'organisation, la mise en place des rencontres, etc., ou dans le fonctionnement de l'association tout au long de l'année, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Mais c'est plus une valeur qui est présente, je dirais pratiquement au même titre qu'on se parle en français, par exemple. Hein. C'est-à-dire que c'est naturel qu'on soit dans l'entraide. S'il se pose une question et qu'il faut s'entraider, naturellement, on va le faire. C'est plutôt comme ça que ça se traduit. Il y a probablement, je n'ai pas spontanément comme ça dans la tête, un exemple dans les 120 ou 130 événements du programme. Mais c'est fondamentalement ça. Hein. Et pour donner un exemple... Si ça bourre un petit peu au niveau de la restauration, au niveau de la vaisselle, au niveau du ménage, au niveau du rangement du mobilier pour passer d'une activité à l'autre, on va voir assez spontanément des participants donner un coup de main presque sans qu'on ait pas besoin de le demander, quoi. Donc voilà, c'est très symbolique ça.
Et donc, pour vous, est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, qui seront proposés donc, à l'écoute ou à la découverte ?
Oui, de nombreux, mais je vais citer un exemple parce que ça peut permettre à vos auditeurs de s'interroger un petit peu. On aura le 28 janvier et le 30 janvier deux tables rondes sur la souveraineté alimentaire, sur l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous regardez économiquement comment chaque zone géographique s'alimente, on s'aperçoit que quand elle achète 5% de production locale, c'est déjà beaucoup. Et que dans un contexte à la fois de crise et d'anticipation, c'est-à-dire s'il y avait un moment que tout s'arrête, même provisoirement, on pourrait se trouver privé des biens de première nécessité, notamment sur le plan alimentaire. Au-delà, ça traduit clairement la situation dans laquelle Au fond, ce que nous mangeons vient de loin, voire de très loin. C'est-à-dire que c'est créateur de CO2, de gaz à effet de serre. Et donc, de toute façon, il va falloir faire évoluer ça. Et donc, sur cette thématique où il y a besoin d'une prise de conscience, y compris de la part des distributeurs, des consommateurs et des distributeurs, nous avons décidé de mettre ce sujet à l'ordre du jour grâce à ces deux conférences. Voilà, c'est par exemple quelque chose d'assez nouveau, assez novateur. Hein.
Fabienne, qu'est-ce qui vous intéresse au sein de l'écologie au quotidien et quels sont les domaines de prédilection ?
Là aussi, j'ai l'impression que tout m'intéresse. C'est compliqué. Mais oui, parce que ce soit à la fois quand on parle d'écoféminisme, quand on parle de méditation, quand on parle qu'est-ce qu'il y a encore, la communication non violente, tout ça, c'est des outils. Et voilà, j'ai l'impression que oui, moi, j'aimerais pouvoir participer aussi à tout ce qui s'y passe. Je ne pourrais pas participer à tout, mais je pense que chacun peut y trouver quelque chose. Voilà, mais que ce soit des spectacles. Je pense que c'est aussi, pour moi, une invitation poétique. C'est pas seulement mon cerveau, le mental qui se nourrit. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est... Voilà, tout est nourri et voilà, ça va être aussi en fonction de qui je suis que je vais pouvoir choisir l'atelier ou la conférence où j'irai.
Il y aura aussi beaucoup de films projetés.
Alors oui, 10 jours plus 1 en fait, hein, pour, c'est une information peut-être importante. C'est-à-dire qu'il y a les 10 jours à 10 même qui vont du vendredi prochain, vendredi 24 janvier, jusqu'au dimanche 2 février. Et nous avons une journée particulière dans l'esprit d'ouverture et de prolongement dans la Biovallée qui se situera à l'écocide d'Eure à côté de Cré. C'est une journée destinée à sensibiliser ou à toucher nos congénères du bas de la vallée de la Drôme. Cette année, l'année dernière, on avait plutôt choisi l'effondrement et ça avait remporté un grand succès. Cette année, on s'est dit qu'il était temps de s'interroger sur la thématique de la technologie. C'est-à-dire que pour certains, la technologie va nous sauver. Alors, vaste débat que je ne peux évidemment pas ouvrir ici, ça va de soi. Mais est-ce que la technologie peut nous apporter la réponse souhaitée par rapport aux questions d'énergie fossile, par rapport à la ressource électrique, etc. Évidemment, les points de vue sont très, très divergents sur le sujet. Donc, on a prévu de faire un débat là-dessus, sur technologie, pas technologie. L'après-midi est beaucoup plus concret. C'est une table ronde témoignage sur des réalisations qui nous permettent de retrouver une autonomie de conception de nos outils. Aussi bien une éolienne qu'un four solaire, qu'une machine à laver à pédales, enfin, etc. Et donc, on va à la fois faire une expo et faire une table ronde témoignage avec, évidemment, la participation active de ceux qui sont les auteurs de tout ça. Tout ça pour susciter des envies de s'éloigner du high-tech. Pas d'une manière systématique, mais en tout cas de prendre une position critique par rapport à ça. Et en particulier par rapport aux jeunes, de s'apercevoir que sur le plan d'avenir professionnel, par exemple, dans ce qui n'est pas le high-tech, donc ce qu'on appelle par opposition le low-tech, toujours pour employer des termes anglo-saxons, il y a probablement des pistes pour des techniciens, des ingénieurs, pour concevoir intelligemment des outils low-tech réparables localement, qu'on n'est pas dépendant de telle ou telle pièce qui vient de Chine. Donc voilà, j'en profite quand même pour signaler, parce que ça n'apparaît pas au programme, et c'est très important, on fait une demi-journée très active au sein de la cité scolaire de Die, grâce d'ailleurs à une ouverture d'esprit, une coopération du proviseur et du proviseur adjoint, avec les élèves de 3e et 4e, sur ce qui s'appelle la fresque du climat, et qui fait que les jeunes, de façon ludique, vont déboucher en fin de demi-journée sur l'envie, du moins on le souhaite, l'envie de passer à l'action sur tel ou tel point. Donc ça ne figure pas au programme parce que ce n'est pas ouvert au public, mais c'est bien grâce aux rencontres d'Audi que cette demi-journée voit le jour, comme les années précédentes d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a une prise en compte des rapports humains aussi, parce que ça fait partie de l'écologie, d'avoir des rapports sains. Quels sont les abords? On parle de non-violence, de communication non-violente, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés autour de cette idée?
Oui, enfin, je voudrais juste vous parler d'écoféminisme. On parlait d'écoféminisme tout à l'heure. Ce que je ressens, ce que je vois dans les rencontres, c'est qu'il y a... On fait très attention à la parité. Et donc, on essaye à ce qu'il y ait autant de femmes sur le devant de la scène que d'hommes. Et que la parole de chacune soit véritablement entendue.
Voilà, je peux prendre le relais d'ailleurs là-dessus, parce que, alors pas sur l'écoféminisme, mais pour illustrer et répondre un peu à votre question, par exemple, le dimanche 2 février, on a un film qui s'appelle « Prendre soin ». Et qui porte sur une maison de retraite pour Alzheimer. Et nous aurons la participation d'une femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle Emmanuelle Dietsch, qui a dirigé jusqu'à maintenant un EHPAD dans l'est de la France et qui a fait une expérience extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'à partir de son EHPAD, elle a créé des activités qui ont fait converger des artisans, des jeunes. Et donc, au travers de ces coopérations, de mise en place de jardins potagers à l'intérieur, enfin pour prendre l'exemple du jardin potager, mais c'est un seul exemple parmi d'autres, se sont noués des liens de coopération, des liens d'entraide entre des pensionnaires pour lesquels la situation n'est pas toujours très drôle et des différentes catégories de personnes qui ont là aussi bien apprécié le facteur humain que, je dirais, l'utilité, le sens de leur action par rapport à ça. Et donc, elle va pouvoir témoigner dans la foulée de la présentation de ce film, d'expériences qui, logiquement, devraient nous inspirer, même pour pousser à des actions locales qui pourraient ressembler. Hein. Voilà un exemple.
Vous parlez de jeunesse, on peut parler de génération. Le public de Écologie au quotidien, c'est un public plurigénérationnel.
Alors, je crois qu'il faut le dire, vu la date... bien entendu, on a majoritairement des participants retraités, c'est clair. Néanmoins, nous avons quand même pas mal de jeunes. D'ailleurs, on a une illustration très claire, c'est que nous avons une centaine de bénévoles pour faire vivre ces rencontres. Et là, on peut dire que très majoritairement, ce sont des jeunes qui ont fait le choix de se libérer pour pouvoir participer très activement aux rencontres. Et puis, au-delà de ça, bah, on a évidemment quand même un public local. À peu près la moitié de nos participants sont des locaux. Et là, bien entendu, on va avoir aussi bien des personnes du même âge, souvent des retraités, mais également des parents, des enfants. Donc on a un peu toutes ces générations.
Sachant que le mercredi, c'est oui, réservé pour les enfants et les familles. Donc, on a tout un tas d'activités le mercredi pour les enfants.
Il y aura la bibliothèque, je suppose, librairie plutôt.
La librairie, oui, la librairie. C'est vrai que on vend à peu près 2000 titres, que c'est l'occasion pour nos participants non seulement d'acheter tel ou tel livre, mais souvent d'aller voir l'auteur, de se faire une dédicace et d'échanger quelques mots avec l'auteur, outre le fait que dans toutes nos conférences, il y a toujours une partie débat qui permet à chacun d'échanger avec les intervenants. Mais oui, on a une librairie qui est très riche. Et d'ailleurs, on travaille en amont, aux alentours du fin de printemps, début d'été, à la constitution d'une liste d'ouvrages que nous voulons privilégier.
Oui, je voudrais simplement rajouter que les prix, c'est pas, ça ne doit pas être un frein pour participer aux rencontres. Oui. C'est-à-dire que on a un prix qui est pour l'éco-pass de 60 euros, 40 euros en tarif réduit.
Alors l'éco-pass correspond à la totalité du...
Alors,
presque.
L'éco-pass global qui donne droit à tout coûte 120 euros. Et il y a un éco-pass de soutien à partir de 85 euros. Et donc l'éco-pass, voilà, à partir de 40 euros. Un atelier ou une conférence coûte 7 euros ou bien 5 euros en tarif réduit. Là encore, il y a une caisse aussi, une caisse à dons. Si on ne peut pas donner ça, on donne ce qu'on veut. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des DIWA, de la population, des jeunes, de tous, ces conférences qui sont vraiment une occasion extraordinaire de rencontrer des personnes exceptionnelles et de vivre une expérience absolument exceptionnelle.
On peut trouver tous ces renseignements sur le site internet, dont l'adresse est, je ne sais pas si je l'ai
souligné. Écologie au quotidien, tout en attaché, écologieaucotidien.fr.
Et puis, il y a la fête aussi, hein, avec l'écologie au quotidien. Il y aura deux balles, c'est ça ?
Deux balles, oui, deux balles folk.
Balles folk.
Le samedi soir, le samedi 25 janvier et le samedi 1er février. De balles folk, car effectivement, avec une ambiance, on peut dire, super
très joyeuse.
Ouais, ouais, voilà.
Avec des grandes robes.
Avec des grandes robes, si on veut.
Non, je pense au grand bal folk de Châtillon, dans
tout
la salle Henri.
Absolument, c'est exactement
et
la
là,
même,
on voit
la même ambiance.
Des robes qui tournent.
Tout à fait.
C'est assez beau à voir.
Et oui, je voudrais juste ajouter que le samedi sur le marché, on chantera. Il y aura la soupe aussi qui sera partagée avec tous ceux qui veulent. Donc c'est aussi un moment de rencontre, d'échange qui est très joyeux et très simple.
On parlait de jeunesse tout à l'heure qui offrait leur service pour cette organisation. Et puis, tout au long de l'année, vous avez aussi d'autres dates qu'on peut parler assez rapidement, celle du 22 avril avec la Journée de la Terre. Ce sont des organisations qui nécessitent des préparatifs et une logistique.
Ça n'a rien de comparable. Ça n'a rien de comparable. Mais quand même, pour répondre plus amplement à votre question... en principe, tous les premiers vendredis du mois, Écologie au quotidien, en partenariat avec l'espace social, organise une, une sorte de ciné-club, hein, pour employer un terme à peu près connu de tout le monde, occasion de passer un film et de débattre ensuite. C'est assez riche. Alors, c'est pas toujours un film, mais c'est souvent très intéressant. Je vais citer un exemple qui a été vraiment remarquable. Il y a à peu près un an, on a fait une conférence sur la PMA et la GPA. Et c'était très intéressant, en ce sens que l'intervenante connaissait très bien son sujet, avait le souci d'avoir une approche aussi objective que possible, ce qui permettait à chacun de, j'irais en son âme et conscience, de prendre des positions. Et je dois dire que l'actualité sur le sujet, puisque le sujet est d'actualité, fait que je souhaite qu'on puisse à nouveau faire une telle réunion à la lumière du texte de loi tel qu'il est en train d'être discuté. Parce que manifestement, d'ailleurs, elle a sorti un article il y a quelques jours dans Libération sur le sujet, montre bien que nous pouvons apporter en direct, en échange direct, au DIWA, une occasion vraiment de réflexion qu'on ne trouve pas facilement.
Jean-Louis Vira, votre appartenance à cette association est depuis combien d'années ?
Alors, c'est mon appartenance à cette association, elle a quelques années. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, des années 2000 au début en 2010-2011, je venais en simple spectateur. De temps en temps, comme j'avais un peu de logistique dans ma société, je leur donnais un petit coup de main, mais c'est tout. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir organiser mon départ en retraite qui s'est étalé du milieu de l'année 2012 à fin 2017. Ça a été très intéressant. Et donc, au fur et à mesure que je pouvais libérer du temps, qui n'était donc plus professionnel, je me suis laissé entraîner, mais naturellement, dans l'association. Et donc, à partir de 2012-2013, allez, on va dire début 2013, j'ai pu participer activement en adhérant à l'association, même en la soutenant un tout petit peu financièrement. Je me suis de plus en plus impliqué. Et aujourd'hui, je suis habité. Je suis habité par le sujet, par écologie au quotidien. Et je trouve que c'est une aventure passionnante. Ça a du sens. Là où, malheureusement, je vois des personnes prendre la retraite et se trouver désœuvrées, ne pas savoir ce qu'elles vont faire, moi, je dois dire que c'est une question que je ne connais pas du tout. Et j'en suis très, très heureux. C'est des fois exigeant, hein, il faut le dire. C'est fatigant, mais ça a du sens. Vous le vivez nuit et jour. Donc ça c'est extraordinaire.
Je vous posais cette question pour savoir déjà comment vous aviez découvert écologie au quotidien, par oui dire ou par intérêt, et à savoir ensuite si il y a une propagation telle de ce type d'organisation sur la France, ailleurs.
Alors comment ignorer les rencontres ? C'est pas possible. C'est pas possible.
Quand on a dit oui, oui. Mais au-delà.
Alors, au-delà, je dirais que tout au long de la vallée de la Drôme, jusqu'à Montélimar, Valence et Romans, c'est pas très difficile. On s'aperçoit que c'est très connu. Et d'ailleurs, je m'aperçois que ça suscite un grand intérêt. Alors, au-delà, eh bien, je continue de découvrir qu'il existe plein d'initiatives du même genre. Et nous déplaçons, je me déplace, dans certaines manifestations qui existent tout autour de nous, parfois même éloignées. Et pas plus tard que ce week-end, j'ai découvert qu'il y aurait une très importante rencontre de l'écologie à Angers au mois de juin. Et manifestement, l'annonce du programme est telle que j'ai bien l'intention d'y aller. Donc, on s'aperçoit que tout ça montre bien qu'il y a une vraie interrogation d'un nombre croissant d'individus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir entraîner des décideurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des politiques, etc. Mais on sent que ça monte en puissance. En ce sens, je suis optimiste.
C'est peut-être le problème de vouloir à tout prix valoriser quoi que ce soit, ou d'aborder chaque chose sur un aspect financier. Par exemple, on peut lire que le travail des abeilles équivaudrait à des centaines de milliards d'économies pour l'agriculture à travers la planète. Est-ce qu'il n'y a pas ce défaut dans la société d'aujourd'hui de à tout prix donner un prix à chaque chose ?
Alors, j'aime beaucoup votre question. Ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que j'ai passé toute ma vie j'étais expert comptable. Ça veut dire que j'ai passé toute ma vie professionnelle à compter. Donc, le critère du chiffre l'a largement porté sur des approches beaucoup plus difficiles à apprécier sur plan qualitatif. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le même problème qu'on a avec le PIB, où le PIB, c'est vraiment devenu un instrument hyper rudimentaire et totalement insuffisant pour apprécier la progression, au sens où on pourrait l'entendre, hein, ce terme progression, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, effectivement, moi personnellement, je pense que j'ai souffert tout au long de ma carrière de cette dimension trop réductrice du chiffre, qui est indispensable, hein, je ne la renie pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle est indispensable qu'elle est suffisante. Et typiquement, c'est ça aujourd'hui, parce que vous parlez des abeilles, mais on pourrait parler de n'importe quoi. La qualité, prenez la qualité de la relation entre les individus dans une entreprise, hein, je reste un peu sur ce terrain-là. La même entreprise vue de l'extérieur peut très bien avoir un vrai capital de relations humaines, comme avoir un véritable handicap de relations humaines. Et ça change plein de choses, à commencer évidemment par le bien-être des individus, et j'ai envie d'ajouter, et de la performance de la boîte. Hein. Donc, il n'y a pas antinomie, bien au contraire. Hein. Donc, effectivement, aujourd'hui, Notre culture, qui est quand même assez rudimentaire, doit s'affranchir un peu des chiffres, pas totalement, et elle doit s'attacher à découvrir des éléments qualitatifs, toujours discutables, mais qui, quand même, dans l'ensemble, permettent de créer une autre approche, une autre vision, une autre appréciation.
L'heure s'approche de la fin, nous allons nous quitter, et donc je vais vous remercier tous deux. Chose importante, cette rencontre, donc les 18e rencontres de Die et de la Biouvallée, commence le 24 janvier pour finir le 9 février, la dernière journée.
La vraie fin, oui.
Voilà. Et ça se passera donc à la salle polyvalente de Die. Et puis, il y aura aussi du partenariat avec l'écocide de Heure, c'est ça ?
Oui. Oui.
Et d'autres ?
Et d'autres, Biovallée, le campus, etc., etc. Enfin bon, on ne peut pas tous les citer.
Madame Fabienne Soudé et Monsieur Jean-Louis Vira, je vous remercie tous les deux donc d'être venus nous parler de cette écologie au quotidien. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Bienvenue
merci à
tout
Radio Diwa. Voilà.
Merci.
Et à bientôt.
On vous attend.
Merci.